Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Les 16 et 17 septembre prochains vont se dérouler en France les journées du patrimoine. Et le samedi 16, à 16h30, 4h30 de l'après-midi si vous préférez, Patrick Delarme, organiste titulaire de la cathédrale, va donner un concert donc sur les grandes heures de la cathédrale. Ce jour-là, ce n'est pas simplement pour Patrick Delabre les journées du patrimoine, c'est aussi le jour où il va recevoir une distinction, puisqu'il va être nommé, fait chevalier des arts et des lettres. Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir Patrick Delabre. Patrick Delabre, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, vous êtes organiste titulaire de la cathédrale, et en fait, votre histoire, si j'ose dire, avec la cathédrale, remonte à plus de 40 ans.
Elle remonte en effet à plus de 40 ans, parce que je suis arrivé ici comme organiste adjoint de Philippe Lefebvre en novembre 1976.
Donc ça va faire 41 ans.
Ça va faire 41 ans.
En novembre.
En novembre.
Alors pendant 10 ans, vous avez été organiste adjoint de Philippe Lefebvre, qui remplaçait Victor Ruello.
Oui.
Ensuite, Philippe Lefebvre est parti à Notre-Dame de Paris et vous êtes devenu organiste titulaire depuis 1986.
86, poste que j'ai partagé plusieurs années avec Christophe Mantoux, qui était Grand Prix de Chartres et qui restait jusqu'en 1992 et puis qui est actuellement l'un des quatre organistes de Saint-Séverin à Paris.
D'accord. Et on va quand même dire que vous avez un adjoint.
Je partage le poste avec Laurent Buys, qui est organiste adjoint de la cathédrale, donc depuis un certain nombre d'années maintenant.
Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais pour le public, vous êtes un mystère quand même. Parce qu'on ne vous voit pas. Vu l'orgue de la cathédrale, vu comme il est placé, on ne vous voit pas, on vous entend.
Alors oui, on voit en général peu les organistes parce qu'ils sont cachés derrière leur clavier, derrière les buffets d'orgue. Les buffets d'orgue généralement sont installés en tribune sur le côté, en hauteur, et il y a l'endroit clé où on peut mettre en œuvre la tuyauterie, c'est une console avec des clavier, un certain nombre d'outils qui peuvent permettre donc de faire sonner ces instruments.
Alors, je vais vous poser une question aussi un peu mystérieuse. Ça veut dire, vous êtes combien de temps par semaine aux grandes heures de la cathédrale ?
Alors actuellement, on a 5 services à assurer le week-end, la messe de 18h, les 2 messes du dimanche matin, dont la messe à 11h est retransmise sur Radio Grand Ciel, et ensuite il y a les vêpres en fin d'après-midi et la messe du soir du dimanche. Il y a quelques autres interventions, des mariages, des funérailles, et puis ponctuellement des concerts. Donc on a à peu près 55-56 week-ends, pourrait-on dire, à assurer, puisque certaines fêtes ne tombent pas le dimanche. Donc ça nous occupe, Laurent et moi, un week-end sur deux.
Cela dit, on aurait tort de croire que vos activités se limitent à votre travail, si je peux dire, d'organiste.
Alors, il y a effectivement, comme beaucoup de collègues organistes français, je suis professeur de conservatoire, j'enseigne l'orgue. Pendant 20 ans, j'ai enseigné l'harmonie et le contrepoint au conservatoire de Poitiers. Et en septembre 2003, j'ai été recruté pour enseigner au conservatoire de Chartres et au conservatoire de Lucé. Donc j'ai finalement un temps de professeur d'enseignement artistique, un temps complet, qui est partagé entre les deux villes. Donc ça prend effectivement pas mal de temps par semaine. Il y a le cours proprement dit, et puis il y a la préparation des partitions, il y a un certain nombre de choses à faire, qui fait qu'on est quand même bien occupé. De même, je parlais des services qui nous occupaient au grand orgue de la cathédrale. Ces services se préparent aussi, donc on a un travail régulier à entretenir durant la semaine, car comme tout instrumentiste, c'est un travail physique et intellectuel. Il faut que le cerveau commande la main et ça demande un entraînement constant et régulier, comme les sportifs de haut niveau qui doivent accomplir des gestes difficiles.
Oui, d'ailleurs, comme sportif, vous entretenez votre forme, puisque pour monter jusqu'à l'orgue, il y a quand
Oui, alors pour monter jusqu'à l'orgue, dont le plancher, pourrait-on dire, le plancher où est assis l'organiste, le plancher est à 16 mètres du sol. Le chemin que l'on prend est finalement le même chemin que prennent les organistes depuis le tout début de l'histoire de l'orgue dans la cathédrale. On dit que c'est autour des années 1350. Donc, pour accéder à la tribune, on rentre par le porche sud. Il y a une porte à côté du portail qui permet d'accéder à un escalier à vis, et au bout de 88 marches, on aboutit à une autre porte qui donne sur le triforium. On ouvre cette porte, on descend quelques marches, on est donc dans le triforium, on regarde sur la droite, on a une vue absolument splendide, on a une porte à gauche que l'on ouvre, on traverse plusieurs pièces qui sont au-dessus du collatéral. On arrive ensuite dans une pièce où il y a la turbine et où il y a une ouverture qui a été faite depuis très longtemps pour accéder à la tribune. Cette tribune, donc, qui est en place depuis 1350, il y a quelques dates clés sur l'instrument de la cathédrale. 1475, l'instrument de Gombauroger. 1542, Robert Filleul, qui est à peu près l'instrument que l'on voit aujourd'hui. Un petit peu transformé plus tard à partir de 1614 par Crépin Carlier. Je cite ces noms parce que pour certains, peut-être ça évoquera quelque chose. En tout cas, cet orgue a une longue vie. Et actuellement, l'instrument qui est joué est un instrument qui a été installé. Donc toute la partie sonore et toute la transmission des touches a été installée en 1971. C'est un instrument des ateliers d'Agnon Gonzalez, un instrument de quatre claviers à transmission électropneumatique. Il y a 67 jeux qui parlent, soit 4865 tuyaux.
Merci pour toutes ces précisions, mais c'est quand même intéressant de le savoir. On va noter aussi que, vu la hauteur à laquelle vous vous trouvez, à 16 mètres au-dessus du sol, pour suivre ce qui se passe en bas, vous avez un écran de télévision.
Alors,
C'est-à-dire que le prêtre qui officie, en fait, il est télévisé, si j'ose dire.
oui, on a une vue sur ce qui se passe au transept ou dans le chœur. Mais avant qu'il n'y ait ces relais télévisuels, il y avait avant un système de miroir, comme dans beaucoup d'endroits, qui permettait à l'organiste de voir ce qui se passait à l'autel principal. Donc finalement, la technique permet d'être un peu plus à l'aise, mais ce système de repères existe depuis très très longtemps pour que l'organiste puisse suivre le geste liturgique et pouvoir donc s'insérer dans ce mouvement liturgique, puisque c'est son rôle de ponctuer l'office, soit par l'accompagnement du chant des fidèles, soit par l'intervention musicale seule des pièces du répertoire ou de l'improvisation.
Alors, il y a une chose peut-être que les gens savent moins. Lorsque vous êtes arrivé à Chartres en 1976, donc, lorsque vous étiez organiste adjoint de Philippe Lefebvre, je le rappelle, vous vous êtes aussi occupé de chant, de chorale.
Alors, lorsque je suis arrivé, en effet, je m'occupais du chœur. J'ai pris le relais en m'occupant du chœur de la cathédrale. Ça a duré quelques années et puis les choses sont parties autrement. Je ne dirige plus de chœur depuis maintenant quand même assez longtemps. Et le fait, en effet, d'avoir été nommé professeur au conservatoire de Poitiers a occupé pas mal de temps puisque j'étais parti entre 3 et 4 jours par semaine. Et donc, je n'avais plus de responsabilité chorale. Par contre, ce que j'ai actuellement et ce que je maintiens, c'est une activité d'arrangeur ou de compositeur pour des chants liturgiques, spécifiquement pour la cathédrale. Le plus souvent, ce qui se passe, le psaume du jour, je le mets en musique, l'antienne, et ça permet au chœur de se manifester. Il y a généralement plusieurs harmonisations pour ne pas être constamment dans le répétitif. Et puis, au fur et à mesure, s'est constitué un certain nombre de pièces. Également, j'avais pondu, puisque c'est un terme un peu familier, mais c'est ça. J'avais pondu quelques pièces en ce qui concernait la liturgie, un Sanctus, un Kyrie, et Monseigneur Aubertin m'avait demandé de terminer la messe. Donc j'ai maintenant écrit une messe complète qu'on utilise parfois à la cathédrale.
D'accord. Mais il y a quand même une chose. Le fait que vous ayez, c'est là où je voulais vous amener, le fait que vous ayez dirigé une chorale explique peut-être que vous ayez adapté, si j'ose dire, des chansons populaires pour les enfants.
Oui, alors ça c'est un autre volet.
Mais c'est un autre volet de vos multiples, ô combien, activités.
Écoutez, je suis musicien, j'ai appris de manière approfondie la pratique de la musique tonale, qui est une science, et c'est pas quelque chose simplement de spontané. Ça demande beaucoup de travail pour bien percevoir les différents procédés harmoniques et contrapuntiques dont je me sers quand j'improvise, que y compris dans un cadre tonal strict où les improvisateurs, on apprend à imiter ce qui se passait au siècle précédent. Et donc je profite de ce métier pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et en 2002, en effet, on m'a demandé d'écrire un certain nombre d'arrangements de chansons populaires que j'ai écrit pour la maîtrise du conservatoire de Chartres, que dirige toujours Philippe Frémont. J'ai écrit, je crois, 13 arrangements qui ont été publiés. Certains ont été repris dans un disque de Noël où j'ai adapté la légende de Saint-Nicolas dans un arrangement avec orgue. Sinon, voilà, effectivement, ça m'arrive de produire des choses. En 2006, l'association Fulbert, qui avait été créée pour l'anniversaire, pour le millénaire de Fulbert, m'avait demandé d'écrire une pièce sur un poème de Fulbert. C'est le Rossignol, qui a été écrit pour trois voix d'enfants et orgue seul. Et ça avait été créé le jour de la messe de... Ça devait être à Pâques 2006, où la messe de Jacques Charpentier avait été créée ce jour-là. Nous entendrons d'ailleurs probablement un extrait de cette messe, un court extrait pour orgue seul qui tenait pour l'offertoire et dont le titre est Rosas.
Alors je vous propose d'écouter. Thank you. Nous voulons entendre Patrick Delarbre aux grandes heures de la cathédrale de Chartres. Patrick Delarbre, qui, je le rappelle, le 16 septembre prochain sera fait chevalier des arts et des lettres. Alors, Patrick Delarbre, en dehors de vos activités de pédagogue, on va dire, d'enseignant, d'interprète, vous avez une énorme activité, si j'ose dire, d'organisateur. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, tous les étés, un festival international d'orgue, c'est-à-dire tous les dimanches après-midi dans la cathédrale. À
16h15.
Cette année, c'est 16h15, bon, l'heure a un peu changé. Donc, je crois que cette année, c'est le 43e festival.
Oui.
Presque aussi vieux que votre présence à Chartres.
Un peu plus ancien.
Voilà. Et donc, il y a ce festival international. Il y a tous les deux ans...
Le concours international d'orgue,
soit interprétation, soit improvisation, soit les deux.
Soit les deux, oui.
D'accord. Ça fait quand même beaucoup de travail, tout ça.
Alors, y compris les soirées estivales qui ont lieu le jeudi à 21h.
Oui,
alors,
excusez-moi, j'avais oublié les soirées estivales.
Je vous en prie. Juste un petit mot avant de revenir sur cette activité, sur la pièce qu'on vient d'entendre, qui a été écrite par Jacques Charpentier en 2006 pour la messe de Chartres. Donc c'est une pièce très calme qui concernait l'offertoire et qui porte le titre de « Deuxième rosace pour un vitrail ». Jacques Charpentier a été vice-président de l'association des grandes orgues de Chartres pendant très nombreuses années et il vient de décéder ici récemment. C'est pourquoi je voulais rendre un hommage particulier à cette figure de grand musicien, grand intellectuel. C'est quelqu'un qui connaissait très très bien Saint Thomas d'Aquin. Revenons à l'activité de l'association des grandes orgues. En fait, dès que je suis arrivé, j'ai été associé aux activités de l'association. Donc, c'était les concerts d'été, le dimanche après-midi. Association qui était présidée alors par Pierre Firmin Didot, qui a ensuite été présidée par Gilles Cantagrel et actuellement qui est présidé par Philippe Lefebvre depuis une petite dizaine d'années. Les activités de l'association, en fait, c'est donc, comme vous le dites, Yves, l'invitation des organismes qui viennent du monde entier, le dimanche après-midi à 16h15. Ces organismes sont invités, arrivent quelques jours avant pour pouvoir travailler entre 6 et 10 heures pour le grand orgue, pour préparer le récital de l'après-midi.
Oui, parce que quand même, il faut l'apprivoiser, le grand orgue.
Voilà, de là où on joue, on entend très très mal ce qui se passe en bas. Et on a besoin de temps pour s'approprier l'acoustique de la cathédrale, qui est formidable, mais de la console, on a des repères difficiles à prendre. Donc il faut du temps pour habituer l'oreille, pour habituer la main, l'ensemble, pour que l'ergonomie de l'orgue puisse être mieux cernée par l'organiste récitaliste. Donc très tôt, j'ai été associé à ces activités. Ensuite sont arrivées les soirées estivales qui ont lieu le jeudi à 21h et particulièrement cette année. Donc, il se trouve que l'association des grandes orgues s'est fournie de matériel vidéo, ce qui nous permet de projeter sur grand écran, sur le côté de la nef le jeudi soir, le jeu de l'organiste. Ce qui ne manque pas de captiver les uns et les autres, car la plupart ne savent pas comment on joue de l'orgue, donc ils sont assez étonnés de voir ces claviers superposés, ces tirettes qui sont à droite, à gauche, on se demande bien à quoi sert. On peut tout à fait comprendre, quand je dis qu'il y a 4865 tuyaux, il faut bien qu'ils s'organisent d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a ces concerts qui sont présents. Le concours international qui a lieu tous les deux ans et qui demande une préparation en amont vraiment importante. Et là, le pilote reste toujours Philippe Lefebvre, qui est un organisateur maître dans tout ce type de processus. Alors, moi, je suis associé, bien sûr, y compris avec mon épouse, pour ce qui concerne les éliminatoires. Les candidats arrivent, jouent devant le jury un certain nombre de pièces. Il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. Ensuite ont lieu les finales. Donc on a à charge de piloter les candidats pour qu'ils soient au mieux de ce qu'ils puissent être. Les conditions n'est pas de mettre de choses trappes pour voir celui qui s'en sortira le mieux, mais les conditions sont faites pour qu'ils soient au mieux de leurs moyens intellectuels et sensibles pour livrer le meilleur d'eux-mêmes le jour du concours. Et je peux vous dire que c'est très difficile, ça demande énormément de tension et de concentration. Alors il y a quelques autres activités pédagogiques où on présente le grand orgue ou d'autres orgues au public. Il y a notamment au mois de mai ce qu'on appelle le jour de l'orgue, où il y a des centaines de manifestations en France, où tout ce qui peut être joué comme orgue est mis en œuvre, alors que ce soit des professionnels ou des amateurs, des élèves de conservatoire qui jouent. C'est ce qui se passe la plupart du temps. En ce qui concerne le jeu de l'orgue, je reviens de quelques jours de vacances et j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler un orgue de très belle qualité, de l'atelier Pascal Coirin à Grimaud dans le sud. Et j'ai vu un certain nombre de touristes qui étaient assez étonnés de voir que l'on pouvait jouer avec les pieds. Il se trouve que je travaillais 2 ou 3 heures le matin. La console était directement en accès près de la porte d'entrée. Et je ne cache pas que les gens étaient stupéfaits de voir qu'on pouvait jouer de cette manière-là. En quelque sorte, la pédagogie aussi pouvait s'exercer à ce moment-là, parce que je ne manquais pas en même temps de répondre aux questions de gens étonnés du fonctionnement de l'orgue.
Alors, à propos de la journée de l'orgue, je rappelle quand même qu'à Chartres, vous présentez l'orgue de la cathédrale, bien sûr, mais vous présentez également celui de l'église Saint-Aignan.
Oui.
Et celui de l'église Saint-Pierre. Et celui de l'église Saint-Pierre a un avantage, il est de plein pied.
Alors, c'est un orgue qui est...
parce que les gens voient directement l'organiste.
Oui, les gens à Saint-Pierre peuvent voir l'organiste jouer. Donc là aussi, c'est une manière d'être très public. Les présentations à Saint-Aignan, les 2 dernières années, se sont faites sur grand écran. Les élèves du conservatoire jouaient et en bas, le public pouvait voir cet orgue jouer. Orgue de Saint-Aignan qui a servi pour les soirées estivales pendant 2 ans lors des travaux de restauration de la nef de la cathédrale où le grand orgue ne pouvait être joué. Donc on a profité de mettre en valeur cet instrument qui est un patrimoine tout à fait intéressant, qui a de grandes qualités, qui mériterait d'être restauré parce qu'il souffre d'un certain nombre de... pourrait-on dire il est fatigué, tout ce qui est transmission électrique est fatigué, mais pour l'instant l'orgue joue et ça permet en même temps de faire les cours du conservatoire et d'y faire certaines productions. Donc finalement, si je résume la vie de l'organiste, c'est un engagement de musicien qui joue de l'orgue pour à la fois faire connaître son instrument, donc par l'enseignement, par la pédagogie, par les concerts, servir la foi catholique dans la mise en œuvre du grand orgue dans le cadre liturgique, ou la mise en œuvre du savoir-faire, ce n'est pas mon cas puisque je suis dans une église catholique, mais on joue de l'orgue aussi dans les temples protestants et dans les églises anglicanes, où le rôle de l'orgue continue d'être très important.
Pouvez-vous nous dire quand a lieu le prochain concours international ?
Alors le prochain concours international aura lieu le 9 septembre 2018. Il concernera l'interprétation.
D'accord. Le dernier, je crois, c'était uniquement l'improvisation.
Voilà, c'était uniquement l'improvisation, où il y a eu d'ailleurs 2 grands prix. Un Français qui est un type absolument remarquable, qui a un grand savoir-faire, du nom de David Cassan, et qui a remporté un certain nombre d'autres concours internationaux, et un deuxième finaliste, qui a eu le grand prix, en la personne de Karol Mosalkowski, qui est un organiste polonais, qui est venu travailler en France au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et qui a lui aussi un grand savoir-faire, et ceux qui sont tous les deux des personnalités très, très sympathiques.
Oui, parce que je ne trahirai pas un secret en disant que vous êtes quand même très porté sur l'improvisation. C'est quand même un peu votre...
Alors,
c'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement... L'improvisation, ça implique, quelque part, un côté compositeur.
Oui, c'est une composition immédiate, un peu comme une conversation que l'on tient uniquement en musique, où les secondes s'égrénant, il faut organiser le discours pour qu'il soit cohérent et le mener à terme selon le temps dont on dispose. Alors c'est un moment où on, c'est vrai, où on met en œuvre son savoir-faire, mais c'est aussi un moment où on est, j'allais dire, toute voile dehors, où on est réactif au moindre événement. Ça demande une grande présence d'esprit et en même temps, on s'y livre en tant que soi-même et on en dit plus peut-être sur soi-même que l'on ne pense. Mais écoute, on dit peut-être l'indicible.
Ah, la musique, c'est aussi une façon de dire l'indicible. Écoutez, Patrick, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que le 16 septembre...
Alors il y aura un concert pas très long, parce qu'on ne peut pas faire des choses longues, mais Monseigneur l'évêque, Monseigneur Pansard, m'avait demandé de faire une intervention musicale avant cette remise de médaille, parce qu'il trouvait que c'était une belle ponctuation. J'ai trouvé l'idée bien, j'ai réussi à insérer ce moment musical. Donc ça aura lieu à partir de 16h, il y aura une 20-25 minutes de musique.
Alors, si j'ose dire, bonne intronisation le 16. Je ne sais pas si on dit intronisation.
Oui, non.
Et merci d'être venu.
Alors, la médaille sera remise d'ailleurs par Nicolas Quillet, qui est l'ancien préfet d'Eure-et-Loire et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à propos de production musicale, de théâtre musical par le conservatoire. Et c'est une personnalité très attachante. Le contact a été amical et assez nourri pendant tout ce travail sur le théâtre musical.
Merci Patrick, merci d'être venu et à bientôt j'espère.
À bientôt à tous. Au revoir.